Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons tous les jeudis de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Jacques Noudila. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire.
Qui vient nous présenter donc son premier roman, mais non pas son premier livre, mais son premier roman qui s'intitule « Présente absence » aux éditions La Girandole. Et d'ailleurs, Jacques est non seulement auteur de nouvelles et donc de ce roman, mais aussi éditeur. Il nous en parlera dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Tout d'abord, pour vous dire eh bien, que le lauréat de la nouvelle du Scribe 2009, qui s'est passé donc à Lozère dimanche dernier, 13 septembre, comme nous en avait parlé eh bien, mon invité de la semaine dernière, Jacques Griffaut de la librairie du Scribe à Montauban, eh bien, le lauréat, ou la lauréate plus exactement, c'est Isabelle Minière pour son recueil de nouvelles intitulé « Maison buissonnière ». Eh bien, on la félicite et puis peut-être qu'on en parlera un peu plus dans notre émission. Vous dire également que mercredi 23 septembre prochain à 16h à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium au Red Jardin, une lecture du conte en langue des signes. C'est Jean-François Piquet qui est comédien, qui va vous conter des histoires en langue des signes avec les bibliothécaires de la médiathèque José Cabanis. Et les illustrations donc des albums contés seront projetées simultanément sur grand écran. Alors c'est pour un public d'enfants à partir de 5 ans, destiné non seulement aux sourds et malentendants, mais aussi aux entendants. Donc n'hésitez pas à amener vos petits bouts. Donc mercredi prochain à 16h à la médiathèque, la durée est d'environ 30 minutes. Ensuite, jeudi 24 septembre à 18h, également à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium Red Jardin, une rencontre avec Claude Nierès pour les 170 ans de la maison d'édition Privat. Alors la maison d'édition Privat est la plus vieille maison d'édition en France. Elle a été fondée en 1839 par Édouard Privat, qui était fils de menuisier. Et elle regroupait à la fois l'édition, l'imprimerie et la librairie et la diffusion. Et elle est restée aux mains de la même famille jusqu'en 1988 et a traversé ainsi le temps et l'histoire. Et Claude Nierès, donc, qui est historien de formation, nous contera un peu l'histoire de cette fameuse maison d'édition. L'entrée est libre et gratuite. Ensuite, samedi 26 septembre, de 10h30 à 12h30, eh bien, l'atelier de lecture de poésie à la médiathèque José Cabanis, au petit auditorium 3e étage, reprend du service pour cette rentrée 2009-2010. Un atelier gratuit mais sur réservation pour une question de place. Alors je vous donne tout de suite le numéro 05 62 27 45 69. C'est Blandine Poney qui anime cet atelier et elle vous propose de découvrir la poésie contemporaine à travers un choix de textes et de propositions simples, et de travailler ensemble le dire à haute voix, et puis également comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole, etc. Donc cette séance de rentrée sera aussi l'occasion de présenter bien la programmation annuelle de cet atelier. Et puis vous dire également que des contes et comptines auront lieu à la bibliothèque Duranty mercredi 30 septembre. La bibliothèque Duranty, c'est 6 rue du Colonel Pélissier à Toulouse. C'est à 10h30, donc le mercredi 30 septembre. C'est pour un public tout petit, de 1 an à 3 ans, mais la lecture, il faut commencer tôt, hein, voilà. Et il faut réserver, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver pour un nombre de places là aussi. 05 60 27 42 52. Voilà.
Page à page, Claire Ambil.
La page des infos étant refermée, je me tourne vers mon invité d'aujourd'hui, comme je le disais, donc Jacques Noudila. Alors Jacques n'a pas toujours été éditeur et auteur, il a fait plusieurs métiers, on va dire, ingénieur, technicien, enfin il a fait beaucoup de choses, mais actuellement, voilà, il a créé La Girandole, donc maison d'édition, en quelle année, il y a combien de temps ?
La Girandole a été créée voici à peu près 4 ans. Au départ, ce n'était pas une maison d'édition, c'était une simple association pendant une époque où j'ai tenté de faire, je dis bien tenté, conteur pour adultes.
Ah oui, tu as été conteur aussi. Voilà, j'avais oublié aussi ce, ce domaine. Voilà, oui, donc domaine de l'écriture quand même.
Il y en a encore beaucoup qui a été oublié d'ailleurs.
Ah, non. On n'oublie rien. Donc, tu es originaire de Tours au départ. Après,
Je suis né à Tours parce que j'ai vu de la lumière, je suis sorti. Bon, c'était à Tours, c'était un peu comme un train, ça aurait pu se passer ailleurs. Je suis d'une famille plutôt moitié bretonne, moitié poitevine.
D'accord. Donc après, d'ailleurs, tu as vécu à Poitiers, Limoges. Enfin voilà,
En Bretagne aussi, à Nantes.
En Bretagne.
Enfin dans la capitale. Poitiers, j'y suis resté une vingtaine d'années.
Ah oui, quand même, oui. Et après, donc voilà, tu nous es arrivé dans la région, donc tu es de la région en adoption, quoi, en fait, hein, un peu comme beaucoup de monde, d'ailleurs.
C'est-à-dire que, en fait, d'adoption, moi je me sens moitié breton, moitié occitan. Parce que, le Poitou faisait partie de l'Occitanie, il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est simplement que c'est la première région où François Ier a réussi à imposer la langue d'oïl contre la langue d'oc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les limites de la langue d'oc passent en dessous du Poitou, en dessous de la Vienne, tout simplement à cause de ça. Parce que Poitiers était une place religieuse extrêmement importante. Et donc, c'était là où beaucoup de décisions de justice étaient rendues. C'est là que, d'ailleurs, que Jeanne d'Arc a dû prouver qu'elle était bien la pucelle qu'on disait. Donc, de ce fait, la langue d'oïl s'est imposée dans le Poitou et la langue que parlait par exemple le roi Richard, qui est devenu roi d'Angleterre après, il ne faut pas oublier que c'était le langue d'Ossien, Poitevin, qui a disparu au profit d'une langue un petit peu mélangée, langue d'oïl, avec quelques tournures languedoc, qui est le saintongeais actuel, qui est classé plus dans les langues d'oïl, bien que ce soit un cas à part.
Eh bien, merci Jacques.
On appelle le palolange.
Pour cette petite page d'histoire, donc tu es passionné d'histoire, j'imagine.
Parce que, bien sûr, j'ai toujours été passionné d'histoire.
Toujours passionné d'histoire et donc de lecture. Et donc, voilà, c'est comme ça que tu es arrivé à l'écriture aussi, à avoir envie d'écrire.
L'écriture, c'est arrivé un peu par hasard. Enfin, tous les gamins, à une époque, je me suis fait mes petites bandes dessinées quand j'étais gamin.
Ah ben non, tout le monde n'a pas fait des petites bandes dessinées, écoute. Il y en a qui ont écrit des petites choses qu'ils ont laissées dans les tiroirs, les bandes dessinées, déjà, il faut savoir dessiner.
Et j'ai fait aussi, beaucoup de gamins, des poèmes en première ou terminale, en première, quand on étudiait Baudelaire, enfin bon, bien sûr, la plupart des gamins, chacun faisait ses petits poèmes. L'écriture, c'est arrivé en 1988, suite à un accident, où je me suis retrouvé un peu coincé.
Immobilisé,
sans savoir que faire, et j'ai
commencé
à écrire.
On a du temps dans ces cas-là. Donc forcément, voilà, ça peut...
C'est tout à fait par hasard que je me suis remis à écrire, d'ailleurs.
Et donc publié, puisque tu as publié donc un recueil de poésie qui s'appelle « Petits mots couverts », en 2005 aux éditions Clapas.
Oui, exactement. Un recueil est un bien grand mot, y a quelques textes, il y en a 4 ou 5, je crois, donc c'est dans la collection Franche-Lippé, qui est une petite collection de Clapas, où il présente un nouvel auteur. Donc effectivement, j'ai publié ça, puis j'ai vu pour la première fois une félicitation qui venait de Belgique, de Paul Van Mel, qui est quand même le père actuel de la poésie belge, qui est un très vieux monsieur, et qui écrivait d'ailleurs « Je ne connais pas ce Jacques Naudila, peut-être est-il québécois
». C'est vrai, c'est amusant.
Ça m'a fait beaucoup rire.
Oui. Et ensuite, tu as écrit donc en collectif, donc tu as écrit une nouvelle dans un collectif qui s'appelle Pacifae et autres nouvelles, qui a été publiée en 2007 aux éditions Le Diable Vauvert, et qui a reçu le prix Hemingway, c'est ça, 2006.
Non,
c'est pas le prix.
C'est lors du prix Hemingway.
Lors du prix Hemingway en 2006, c'est donc un collectif de nouvelles.
Oui, on m'a demandé de participer au prix Hemingway. On a beaucoup insisté pour que je participe. Alors j'ai envoyé ma nouvelle. C'était le prix Hemingway étant un prix sur la tauromachie, moi n'étant pas du tout aficionado, mais alors pas du tout. En même temps, bon, ça fait partie aussi d'une certaine culture du Sud. Et puis, bon, je préfère voir des espèces qui sont toujours élevées plutôt que des espèces totalement disparues parce qu'elles ne servent plus à rien. Donc, entre les deux, bon, j'ai une prudente neutralité. Enfin, j'ai eu quelques idées quand même. Donc, j'ai écrit cette nouvelle qui s'appelait « Rouge, or et safran ».
En un essayant, joli titre.
Voilà, qui était l'histoire d'un moine tibétain qui se réincarne sous forme de taureau, qui se retrouve dans une arène. En fait, pour lui, il est en train de combattre des démons pour pouvoir avoir droit au nirvana. Ouais.
D'accord.
Qui, bon, je raconte pas la fin parce que elle est fort drôle.
Et il s'est trouvé que toutes tes fins sont fort drôles.
Il s'est trouvé qu'elle a été finalement retenue en finaliste et je me suis retrouvé édité. Au Diable Vauvert.
Ça fait plaisir.
Et donc, j'ai fait mes premières signatures. Je me souviens, à Nîmes, pendant la feria de Nîmes, faisait très chaud.
Ah bah en plus, c'était tout à fait le cadre idéal pour
faire signature
des
whisky, là-dessus. D'ailleurs. Il y avait une bouteille de whisky qui tournait. Bon, c'est vrai qu'on ne devait pas présenter très, très bien les auteurs qui signaient. Mais enfin, comme le public était à peu près pareil, personne ne se rendait compte.
Très bien. Et ensuite, donc, on arrive à Monsieur Diluvert, donc en 2008, donc un recueil de nouvelles, là, 17 nouvelles hein, exactement, et là qui ont été éditées par la maison d'édition, La Girandole, que tu as créée il y a 4 ans.
Voilà, La Girandole a été transformée en maison d'édition, et effectivement a été créée, Monsieur Diluvert, le premier recueil de nouvelles. Alors pourquoi je ne l'ai pas... Pourquoi je ne l'ai pas fait éditer ailleurs? J'aurais pu éventuellement, après l'avoir retravaillé, le Diable Vauvert aurait pu éventuellement le prendre, puisque bon, de toute façon, là, il est possible que je leur laisse...
Oui, s'ils avaient aimé Rouge, Safran et Or, ça leur aurait plu aussi. Hein.
Oui, mais comme à cette époque-là, j'étais conteur et puis que ça marchait plus du tout. Déjà, pour être intermittent du spectacle, c'était horrible. Et en plus, quand on dit conteur pour adultes, les gens vous regardent avec des gros yeux. Pour eux, les contes, c'est pour les petits enfants.
Oui.
Et ils n'ont pas très bien compris que l'origine du conte, autrefois, s'adressait exclusivement
aux adultes.
Et absolument pas aux enfants. Et que c'est devenu un petit... au fil du temps, avec l'évolution de la société, quelque chose qui est devenu presque un genre mineur réservé aux enfants. Ce qui est assez dommage d'ailleurs. Bon, Henri Gougo défend encore le conte. Donc je me suis retrouvé à écrire Monsieur Diluvert et à l'éditer. L'éditer en allant taper au départ des copains pour leur vendre la souscription.
Donc voilà, donc c'est Monsieur Diluvert. Et puis donc maintenant, donc en 2009, en juin 2009, premier roman, donc Présente Absence, donc toujours à la Girandole. Également.
Également, oui. Oui, mais également, c'est premier roman, je dirais premier roman édité, parce que bon, j'écris énormément. Et il y a beaucoup de romans
qui sont dans les tiroirs, justement.
Qui sont dans les tiroirs, jamais complètement finis. Certains finis à 90%, d'autres pas du tout.
Donc celui-là a été fini à 100%.
Celui-là a été fini à 100%. C'est-à-dire après, je fais une sélection de ce qui me parle, ce que je sens le mieux.
Dans les deux, de toute façon, que ce soit dans Monsieur Diluvert ou dans Présente Absence, on retrouve cette... Bon, t'as beaucoup d'imagination, Jacques. Et puis surtout, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et puis, on retrouve justement cette idée du conte. C'est un mélange vraiment du conte populaire. Bon, dans Présente Absence, il y a aussi les chansons de Brassens. Enfin, il y a beaucoup de mélanges de contes, d'imaginaires et puis aussi de la réalité parce que tu abordes des sujets dans Monsieur Diluvert notamment, tu abordes des sujets actuels. Hein. On y parle de chirurgie plastique, certes, chez les sirènes, mais on y parle... Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets. On y parle aussi des méfaits des produits diététiques, bon, sur la population sahélienne. Enfin, c'est toujours décalé. Moi, j'aime beaucoup cet aspect décalé de tout toutes ces histoires de ce recueil et notamment aussi dans ton roman Présente Absence. On retrouve ce côté décalé aussi.
Oui, parce que bon, ce sont des critiques qui, en réalité, je ne trouve pas assez féroces. Elles pourraient être encore plus féroces.
Ah, mais ça l'est déjà un peu, hein, quand même.
Ça l'est déjà un peu.
Oui,
simplement,
oui.
Ce qu'il y a d'emmerdant dans beaucoup de livres qui sont critiques, des essais, c'est que c'est d'un ennuyeux à lire, et c'est surtout ça donne envie de prendre une corde et d'aller se pendre.
Ah ben là, donc, quand on te lit, pas du tout. On sourit, on sourit, on grimace, c'est sûr aussi, mais on aime, quoi. Je veux dire, on aime ce côté, justement, décalé, parce que, bon, justement, tu sais amener la bonne dose du décalage et la bonne dose d'humour et de féerie aussi, parce qu'il y a beaucoup de féerie dans ce que tu écris, je trouve.
Je crois que la meilleure critique, c'est celle qui fait, c'est le rire. C'est de se moquer.
C'est de savoir se moquer et de savoir rire des absurdités de notre monde, de sa cruauté aussi. C'est de savoir rire de tout ça.
Oui, il faut savoir rire de tout. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, bien entendu, puisqu'on a quelques gardiens anti-humour qui voudraient que l'on ne rie pas de certaines choses. Mais il faut se moquer de tout. C'est la seule façon de survivre, de pouvoir garder un petit peu d'espoir et aussi d'avoir de la force. Parce que si on se laisse emporter, bon, comme je disais, on a envie de se pendre,
ou
alors
on va droit
à la dépression.
Oui, tout à fait.
Et contre la dépression, il vaut mieux se moquer de tout, y compris de soi-même d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Mais il faut pouvoir le faire. Hein. Tout le monde n'est pas capable de le faire, je pense.
L'écriture peut-être facilite
cet aspect. L'écriture, ça facilite peut-être cet aspect de pouvoir se moquer de soi-même et de se moquer de tout.
Bah, c'est surtout c'est une forme d'hédonisme, si on veut, un petit peu. Donc, pouvoir se moquer de tout, c'est lié à un certain hédonisme. Bon, on connaît les journaux, hein, le défunt, enfin pas tout à fait défunt Charlie Hebdo, mais il bouge encore, et Ciné Hebdo aujourd'hui, même si ça n'a pas plus pour moi la qualité que ça avait à la grande époque, je pense pour beaucoup de gens. Bon. Il y a encore Lequel Canard Enchaîné qui est connu aussi. Ce sont des institutions qui sont quand même assez féroces.
Oui, tout à fait.
Mais c'est un petit peu comme ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir critiquer avec férocité et avec humour.
Et je continue
à le faire, et je pense que plus ça ira, plus mes ouvrages sortiront d'une prudente neutralité que j'avais au départ, pour appuyer partout, ça fait mal. Mais partout.
Bon, on attend avec impatience, alors, ton prochain roman, quoi. Reparlons alors de Présente Absence, donc, juin 2009. Donc, c'est un roman, une étrange histoire, hein, teintée, ben, justement, d'humour, comme on le disait, de magie aussi, puis de réflexion, hein, bien sûr. Et puis, bon, moi, j'ai trouvé que c'est très original comme roman et très agréable à lire. Je me suis vraiment régalée. Alors, le titre est un peu mystérieux et énigmatique, Présente Absence, mais ça correspond parfaitement au roman, hein, qui est un peu aussi étrange et mystérieux. Hein. Je trouve que le titre est très bien choisi.
Eh bien, Présente Absence, bon, c'est un oxymore, mais il bouge encore.
C'est bien dit. Et alors donc, j'ai beaucoup aimé. Donc on s'évade. Voilà, ça nous permet de s'évader un peu de notre monde, hein, en rentrant dans ce roman, avec des histoires donc extraordinaires. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment extraordinaires, toutes ces histoires, parce que bon, on va raconter un petit peu le roman, et donc le tout servi donc par une écriture. Moi, j'aime beaucoup ton écriture aussi, ton style, parce que c'est limpide, c'est simple, c'est clair, quoi. C'est, voilà, moi, ça m'a beaucoup captivée. Enfin, on ne le lâche pas, hein, le livre. On ne le lâche qu'à la dernière page. Et parce qu'il y a, en plus, il y a un suspense. Le suspense est garanti, quoi. Jusqu'à la fin, on a envie de savoir comment ça se termine. Et la chute, eh bien, ma foi, la chute, elle est un peu étrange, hein, je veux dire, un peu comme tout le roman. Et puis, surtout, ben, on ne s'y attend pas du tout. Hein, je veux dire, c'est une bonne chute parce que, justement, on ne s'y attend pas.
Oui, il faut préciser que Présente Absence, c'est un roman à tiroir.
Oui, tout à fait.
Les romans,
plein d'histoires dedans.
Alors, un tiroir, un roman à tiroir, c'est un roman avec, bon, ce qu'on appelle en termes techniques des mises en abîme.
Oui.
Ce sont des romans avec des histoires à l'intérieur d'une seule histoire. Bon, le plus connu, c'est Les Mille et Une Nuits.
Hein, oui.
Ça, tout le monde connaît ça. Après, on connaît le Décaméron, hein, les contes de Boccace. Les contes de Canterbury. On connaît aussi, alors sont un peu moins bien connus, les romans à tiroir du 19e siècle. Hein, vous avez Melmoth, par exemple, le manuscrit trouvé à Saragosse. Enfin, tous ces genres de livres qu'admiraient beaucoup les surréalistes et André Breton.
Oui, donc là, c'est un roman à tiroir, oui. Donc présente absence. On va peut-être parler un petit peu de l'histoire succinctement, hein, pour que les auditeurs aient envie de le lire et d'aller jusqu'au bout. Donc l'histoire, en fait, c'est, comme je disais, c'est un peu mystérieux. Une invitation mystérieuse est envoyée à des personnes, en les invitant donc à venir dans le Morvan, dans une maison de maître. Donc ces sept personnes ne se connaissent pas, ils ont reçu cette invitation par la poste, et donc ils ne connaissent pas la personne qui les invite. Donc ces sept personnes viennent d'horizons fort différents, puisqu'il y a un romancier, un musicien, un technicien en robotique, un professeur d'archéologie, un reporter, un psychothérapeute et un philosophe. Alors le point commun de toutes ces personnes, c'est l'écriture. Ils ont soit écrit ou soit ils écrivent encore. Le point commun entre ces personnes, c'est l'écriture.
Oui, de la fiction ou des essais.
Mais
ce
voilà,
sont des gens qui ont un point commun avec effectivement le mot écrit.
Écrit, voilà. Et alors donc tout le monde arrive donc dans cette maison de maître. Il y a une cuisinière donc qui est là et qui leur sert un repas succulent. D'ailleurs, on aurait bien aimé participer au repas. Ça donne l'eau à la bouche de lire tous ces plats qui ont l'air fort bons. Et puis il y a une voix inconnue, mystérieuse, sortie un peu de nulle part, ou plus exactement d'un magnétophone, et qui leur raconte là aussi une étrange histoire. Une voix donc qui leur raconte une histoire. Et puis après, donc, cette voix leur demande de raconter aux chaque convive, aux sept personnes, à eux aussi de raconter une histoire au cours du repas, à tour de rôle.
Oui, en fait, cette voix, c'est la personne qui est invitée.
Voilà, c'est
que
la personne
qu'on ne voit pas.
Voilà,
tous les convives doivent raconter une histoire.
Au cours
c'était
du
la
repas.
Règle du jeu, d'ailleurs.
Oui,
au départ,
dans l'invitation, c'était bien spécifié.
Dans
oui, tout à fait. Et donc, on a, donc, c'est là justement le roman à tiroir, c'est justement voilà, chaque histoire, le musicien, le psychothérapeute, le romancier, etc., chacun va raconter une histoire ou un rêve ou un conte, donc au cours du succulent repas servi par cette cuisinière. Et puis, donc là, c'est là où on plonge eh bien, dans la féerie ou dans la magie. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires extraordinaires, comme je le disais au départ. Et puis, chacun de ces sept convives. Et ensuite, après la dernière histoire, eh bien, si sur les sept, il y en a six qui restent, enfin qui s'en vont,
le septième, lui, comme il n'y a pas de place pour son hôtel.
Voilà, il n'a pas pu être logé.
Il ne peut pas être logé, donc il sera ramené. Enfin,
Et voilà, et après, c'est la fin de l'histoire. Non, il faut garder, la chute est extraordinaire, là aussi, on ne s'y attend pas. Et il faut que les auditeurs découvrent ce roman. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce roman. Et d'ailleurs, j'avais aussi beaucoup aimé Monsieur Diluver. On retrouve ce même ton que tu as, de toute façon, je crois.
Oui, là, il y a une atmosphère. Oui.
L'atmosphère est certes différente dans Monsieur Diluver, le recueil de nouvelles, mais je veux dire, on retrouve cet aspect de mélange d'humour, de décalage, de féerie et puis d'actualité aussi.
Par moments, il y a une atmosphère un petit peu plus policière dans Présente Absence.
Ça m'a fait penser un petit peu à un certain roman d'Agatha Christie. Je ne dirai pas lequel, pour laisser un peu le suspense là aussi. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu à un roman d'Agatha Christie pour une certaine chose.
Oui, quoique bon, c'est...
Disons que c'est ce que moi j'ai ressenti,
oui,
quoi,
oui, non.
À la lecture.
Ça fait quelque temps que je n'ai pas lu d'Agatha Christie. Ça fait...
J'en ai lu
beaucoup à une époque.
Ah ben, je crois qu'on a tous quelques Agatha Christie dans sa jeunesse.
Peut-être, je ne sais pas. Là,
en tout cas, voilà. Donc, Présente Absence, édition La Girandole, donc juin 2009, Jacques nous dit là. Et puis, il nous reste très peu de temps, malheureusement, donc dire que tu es aussi éditeur, donc La Girandole. Et justement, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Toussaint l'Ouverture.
Les mémoires du général Toussaint.
Les mémoires du général Toussaint l'Ouverture.
Alors, celui-là est sorti en mars. C'est le manuscrit original de la main de Toussaint même.
Donc, ça a pris 8 mois pour tout retranscrire.
Pour retranscrire ce manuscrit.
C'est un énorme travail.
Oui. Donc, il y a deux parties dans le livre. Une première édition de l'ouvrage de Saint-Rémy, dit Descailles, qui était un historien du 19e siècle. Ouvrage paru en 1853. Ma mémoire est bonne. Donc, et la deuxième partie, c'est la retranscription exacte du manuscrit de Toussaint l'Ouverture.
D'accord, donc c'est en deux parties, et donc ça, ça, ça représentait un travail long et,
8 mois de travail,
et
oui,
laborieux, mais bon, voilà, passionnant.
C'est passionnant. Là, j'ai découvert l'histoire de la fin de la présence française à Saint-Domingue et de la naissance de la République d'Haïti.
Tout à fait.
Et là, je pense, ça va être une surprise. Je pense m'attaquer à d'autres sujets qui vont être aussi très très intéressants.
En attendant, pour l'édition.
Pour l'édition, oui.
Tu peux nous en dire déjà.
On a plusieurs chantiers. Bon, le prochain livre qui va sortir s'appellera Adilou, de Florence Pérenne. C'est Adilou, une enfance africaine. C'est un livre assez féroce sur la société africaine des années 70, principalement la société, bien sûr, blanche, la présence post-coloniale.
D'accord, post-coloniale.
Et ensuite, il y aura Voyage en Outre-mer de Joinville Gauban, qui est un ouvrage qui existe qu'en 30 exemplaires.
Ah oui.
Puisque c'est une personne qui est partie à Saint-Domingue quand il était jeune, cadet de Gascogne. Il s'est trouvé embarqué dans les pires galères. Il voulait être planteur. Bon, il avait ses petites lettres de recommandation. Donc tout est raconté très bien. Et on voit comment le système, qui est absolument infect, ça rappelle certains dom-toms français d'aujourd'hui d'ailleurs, enfin, il n'y a pas très longtemps. Un peu le système Gaston Flosse, par exemple.
Et donc,
il lui arrive toutes sortes de malheurs, de misères. Et il revient, un des 6 survivants du massacre de Port-de-Paix. Il revient en France et il écrit ses 30 exemplaires pour ses petits-neveux, jamais réédités. C'est un document unique, un témoignage parfait.
Et
la
donc,
Girandole
sera,
le sortira.
Ça sera la Girandole.
Voilà, début de l'année 2011. 10.
Tu viendras nous en reparler alors.
Bien entendu.
Et puis donc au niveau personnel, on va dire en tant qu'auteur, donc tu as un projet de roman qui sortira aussi dans quelques temps.
J'ai un double projet.
Double projet.
J'ai un double projet. Un pour la Girandole, effectivement, et un autre roman que je vais donner à un éditeur déjà bien assis. Bon, parce qu'on me le demande, mais bon, ça... J'en dis pas plus. Bon, puis c'est des collègues, donc voilà.
Bon, donc voilà, plein de projets, Jacques, à la fois comme éditeur et à la fois comme auteur. Tu reviendras nous en parler sur Radio Occitanie, dans Page à Page.
Bien entendu, je repasserai.
Ben, merci à toi, Jacques. Donc, merci. Présente absence à lire absolument. On n'a pas le temps d'en lire un extrait.
C'est dommage.
Trop court. C'est dommage, mais je vous le recommande chaleureusement. Voilà, c'est vraiment un très, très bon roman. La semaine prochaine, je recevrai Pierre Lecause, auteur de Notre Région, pour son recueil de nouvelles « L'autre versant du jour » aux éditions du Rocher et pour lequel il a reçu le prix Prométhée de la Nouvelle. En attendant, bonne semaine à tous et à d'ici.